Bonsoir, je vais vous présenter Claire Belmas, donc qui, avec Robert Melmas, est un duo d'écrivains, un couple littéraire de la science-fiction. Il y en a eu d'autres, c'est un couple littéraire particulièrement performant. Ah bah voilà, Dave Calvo, très bien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc merci, qui nous rejoint depuis depuis Mauvais Genre et qui nous fait l'amitié d'être avec nous immédiatement. Donc les Belmas sont des écrivains et des écrivains grands marcheurs qui ont trouvé leur inspiration dans les régions reculées de France notamment, et c'est de là que leur vient apparemment, je ne suis pas dans leur petit secret, mais l'idée d'avoir écrit les Chroniques des Terres Mortes. Donc là on est encore dans les lendemains qui chantent, hein, c'est de fait, mais non, c'est un univers postmoderne un peu compliqué, hein, mais dont nous parlerons peut-être un petit peu, mais il est probable que nous parlerons plus spécifiquement tout à l'heure de leur dernier roman « Sous le soleil de cendre » qui est paru chez Scrinéo et qui présente un environnement partiellement utopique, du moins utopique, et confronté à des problèmes, parce qu'il faut bien dramatiser les choses, et nous aurons l'occasion, je pense, d'en parler en cours de route. Alors, voici donc, voilà. J'ai pris la liberté de commencer à présenter les présents.
Daniel aussi.
Oui, il y a Daniel qui vient, oui, tout à fait. Normalement, il devrait y avoir assez de place.
Qu'est-ce qu'on fait
Tu peux t'asseoir, je pense que c'est le mieux, voilà. Tu peux rester debout aussi.
Et si je reste debout?
Aucun problème.
Et si je chante?
Demain plutôt.
Et lendemain, tu chantes.
Bien. Alors, excusez-nous, je crois qu'il y a un effet de fatigue de la fin de la journée. Donc vous voudrez bien excuser les mauvaises blagues qui pleuvront peut-être aujourd'hui et maintenant, et dont je ne serai sans doute pas le dernier à m'abstenir. Alors donc, partons du bout. Hugo, comme ça je finirai avec Daniel. Hugo Bellagamba, qui fait partie de ces gens qu'on ne présente plus mais qu'on présente quand même, hein, qui a été directeur artistique des Utopiales de 2012 à 2015, et qui est maître de conférences en histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Nice, et qui a exploré différentes thématiques dans ses œuvres de fiction, l'Uchronie, l'Utopie, l'exploration spatiale, dans divers romans. On peut mentionner Tancred, une Uchronie, et L'origine des victoires également, qui nous présente de manière un peu... finalement un peu complexe, mais l'accession, enfin un remède à finalement un problème que l'humanité a rencontré, et finalement est plutôt optimiste. En fait, Hugo Bellagamba représente plutôt un versant optimiste dans notre table ronde. Voilà. Alors dans les optimistes, il y a également Daniel Tron là qui vient d'arriver. Ce n'est pas puisque c'est quelqu'un de profondément joyeux. Hein. Voilà, comme vous avez pu le remarquer déjà. Oui, enfin ça, c'est pas de ta faute. Hein. On sait que tu étais modérateur sur la table ronde précédente. Alex Jester, qui lui représente plutôt une tonalité plus sombre, m'en a-t-il prévenu, mais qui est quand même là pour nous expliquer comment nous pourrons bien vivre les années qui nous restent. Voilà. Est un écrivain, auteur, traducteur, dialoguiste, scénariste. Voilà, n'en jetez plus, et qui a publié différents romans apocalyptiques, Tourville en 2007, Au Diable Vauvert, et plus récemment, surtout, Les Contes du Soleil Noir, un cycle de 5 courts romans dans lesquels il nous explique tout le mal qui va nous arriver essentiellement, mais s'il le trouve pertinent, il nous expliquera de quoi il retourne. Alors, Dave Calvo, qui est écrivain, dessinatrice, conceptrice de jeux vidéo, qui est donc une auteure particulièrement reconnue dans la fantasy, autrice.
C'est ça.
Qui a notamment, je ne sais pas très bien comment nous intégrerons Toxoplasma dans cette table ronde, mais j'espère bien que nous en parlerons. Son dernier roman, apparu à la Volte, et qui, comme les autres écrivains, les autres œuvres dont j'ai parlé, est une œuvre problématique qui dramatise la question du futur. Et ça va être un de nos problèmes. Comment ? Si, non ? Pas du tout ? Voilà, bon, très bien. Voilà, parfait, très bien, choisissez votre camp. Ah, mais c'est ça, on n'a pas beaucoup de, plus beaucoup de pessimistes là à ce stade. Et enfin, Daniel Tron, qui est enseignant en anglais, qui a écrit une thèse sur deux auteurs particulièrement optimistes, Philippe K. Dick et Terry Gilliam, et qui est, un spécialiste de tout. Voilà. Alors, j'ai terminé cette présentation de nos invités et j'en viens à mon petit topo de modérateur et ensuite vous aurez le plaisir d'entendre nos invités plutôt que moi. Alors voici comment je propose de poser la question. La science-fiction peut-elle être optimiste sans être taxée de naïveté? Peut-on être optimiste sans être naïf? De fait, notre avenir proche paraît lourd de dangers et d'incertitudes entre les menaces climatiques, les dérives sécuritaires, les scandales sanitaires, pour ne pas parler de religion, nous n'en parlerons pas. Et il paraît loin le temps joyeux où Hugo Gernsback, ce grand patriarche parmi d'autres de la science-fiction, pouvait se faire le chantre des voitures volantes, des immeubles touchant le ciel, des robots libérant sans aucun inconvénient nos forces de travail. Bien plus à la mode sont à présent les multiples dystopies qui inventent toujours plus de moyens de faire plier les individus sous le joug des normes sociales et de plonger notre monde dans le crépuscule de catastrophes globales. Vous reconnaissez, je pense, ce dont je parle. Pourtant, parler d'avenir en science-fiction n'est pas forcément synonyme de mise en garde, de critique sociale ou de pessimisme scientifique. Et nous allons essayer, au moins dans le temps qui nous reste, de porter notre regard vers ces œuvres de science-fiction qui nous parlent d'un avenir meilleur, qu'il s'agisse de prévoir des tendances humanistes, des progrès techniques, des victoires sociales que demain pourrait nous réserver, ou nous inciter à porter les yeux au-delà des problèmes du jour pour nous rappeler quelle ambition pourrait mener l'humanité jusqu'aux étoiles. Voilà, ça c'est ce que je dis, et maintenant nous allons voir ce que vous en faites. Donc, j'aimerais vous entendre dans l'ordre qui vous plaira. Vous pouvez vous jeter sur les micros ou le passer à votre voisin. J'aimerais vous entendre sur la foi en l'avenir des écrivains de science-fiction et pour vous demander s'il y a une place dans la science-fiction pour cette foi dans l'avenir ou dans le progrès, ou non, d'ailleurs. Alors, qui veut commencer ?
Voilà. Moi, j'y vais parce que j'ai la foi. Eh oui, j'ai la foi. Et pourquoi vous riez ? J'ai la foi. J'ai la foi, c'est pas tendance, c'est pas grave. Moi, j'ai la foi et j'ai la foi dans l'avenir, en fait. Et je pense que la science-fiction est continuatrice de l'utopie. Que cette utopie qui s'est comme ça, qui a éclos pendant la Renaissance et qui est devenue très importante pendant le XVIIIe siècle, avait une vision, effectivement, de l'amélioration de la cité, de l'amélioration de nos vies quotidiennes. Et je pense que la science-fiction l'apporte, cette vision. On peut citer des tas d'exemples où, même si parfois il y a des phases transitoires très délicates, très difficiles, en réalité, les fins, les aboutissements de récits de science-fiction sont plutôt optimistes. Et donc, je ne vois pas pourquoi la science-fiction devrait être absolument « Apocalypse Tomorrow ». Qu'on vient de faire. Et donc moi, si j'en écris de la science-fiction, c'est pour dire que même dans les situations les plus difficiles, même dans les systèmes les plus fermés, les plus figés, il y a toujours un moyen de trouver l'espoir d'un changement, l'espoir d'une amélioration. C'est mon moteur en tant qu'écrivain, et c'est les raisons pour lesquelles j'écris La Cité du Soleil, L'Origine des Victoires, et même Tancrède, qui pourrait paraître un roman sombre alors que c'est pas le cas. Et je crois profondément que la science-fiction, pour moi, en tout cas, elle est héritière de l'utopie, telle que le XVIIIe siècle la voyait, telle que Condorcet, Louis-Sébastien Mercier, des auteurs de ce type, voyaient l'avenir, un avenir ouvert, avec beaucoup d'ironie. Hein. La science-fiction est très ironique. Mais en même temps, oui, je crois qu'elle est très positive. Moi, je suis du côté de ceux qui pensent que la science-fiction peut nous aider à construire un monde meilleur, absolument.
Qui dit mieux ?
On peut parler là ? Oui, c'est bon ?
Allez-y.
Bon. Alors moi, j'ai un peu le point de vue inverse de celui d'Hugo, parce que bon, depuis quand même, on va dire, les années 70, la littérature de science-fiction a pris conscience de tout un tas de problèmes qui se posaient à notre société, en particulier la conscience aiguë que tout progrès dans un domaine se payait d'une régression dans une autre. Et à partir des années 70 quand même, et jusqu'à nos jours, c'est plutôt la dystopie la plus noire souvent qui prévaut dans la littérature de science-fiction. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais à tel point que tout à l'heure, au centre de dédicace, j'ai eu une personne qui était complètement dégoûtée, qui me disait « j'en ai assez d'entendre des vaticinations de Cassandre, et j'achète votre roman ». Le dernier, Sous le soleil de Sandre, précisément parce que ça tranche, voilà une utopie positive et non plus une dystopie. Bon. Alors là, je crois que le débat doit être ouvert.
Mais alors, moi qui ne l'ai pas lu, donc il est optimiste ou pas ? Parce que j'entends une position opposée, mais moi je suis complètement opposé. Non, la science-fiction prend vraiment conscience des catastrophes qui vont nous arriver, et donc quelqu'un achète le dernier roman en se disant « Ah, enfin quelque chose qui va me remonter le moral. J'ai raté un épisode. »
Alors, le moral sera remonté dans une certaine mesure, parce que la société que nous imaginons, ou plus exactement, que Jean-Marc Ligny, qui avait donné l'idée de départ de ce roman, a imaginé, est une société, j'expliquerai peut-être ça tout à l'heure, bon, c'est pas le moment là, est une société qui a trouvé un équilibre avec l'environnement, équilibre qui est actuellement plutôt en passe d'être rompu, sinon déjà rompu tout à fait. Oui, c'est une société qui est presque idéale, où ne se posent que de petits problèmes. C'est une société démocratique, une démocratie participative, assez libérale, je veux dire au sens moral du terme. Bien entendu, comme il faut qu'une perturbation se produise pour qu'il y ait une histoire, la médaille a son revers. Enfin, j'en parlerai plus tard, peut-être.
Oui, on aura l'occasion de revenir à cette question qui est qu'effectivement... il faut, à mon avis, distinguer la question de la dramatisation du récit à des fins simplement d'animation d'une histoire, de la question de la représentation d'un cadre qui est plus ou moins problématique. Et à cet égard, il est frappant que, enfin, finalement, Sous le soleil de Sandre fonctionne d'une manière qui est un peu similaire à, par exemple, au cycle de la culture de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le cycle de la culture présente un environnement qui est enviable à tout point de vue, enfin, du moins qui est utopique, mais de la même façon, les romans parlent des moments de crise. Hein. Donc, on trouve une crise, mais ce qui est en crise est une société qui est au départ positive. Est-ce que quelqu'un... Donc, Alex Esther.
Ouais, bon, alors on va dire, c'est une question de confiance. En fait, moi, j'ai une histoire personnelle qui est un peu pourrie, mais je vais quand même la raconter vite fait. J'ai voulu écrire un roman qui soit une utopie positive. Je l'ai attaqué en 2015. J'ai touché une bourse d'écriture pour ça. C'est pour ça que c'est vraiment pourri, quoi, parce que je ne l'ai pas écrit, ce livre, en fait. Donc j'ai commencé. Je dois avoir 150 pages. Voilà, il y avait diverses... Ça cherchait l'utopie plutôt orientée retour à la nature, décroissance, ce genre de choses. Et puis, je me suis arrêté le 13 novembre 2015 parce que j'ai allumé ma radio, j'ai entendu parler du Bataclan et j'y croyais plus. J'avais plus confiance. Et en fait, je pense que chacun d'entre nous peut se poser la question. L'avenir, c'est les êtres humains qui vont le faire. Chacun d'entre nous est un être humain. On se regarde dans le miroir et on se dit, est-ce qu'on a confiance en ce qu'on est capable de faire ? Chacun peut se poser la question.
Il est fort. Moi, j'ai tendance à devenir de plus en plus optimiste parce que du fait qu'il y a plein de faves partout et qu'il faut bien se battre maintenant, quoi, et qu'ils sont nombreux et que ça va partir en sucette très vite et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, moi, je me dis que si on continue à créer des dystopies qui font des espèces de futurs, de prophéties autoréalisées sur le futur et tout, ben, c'est fini, en fait. Donc, c'est peut-être un peu naïf. Moi, je préfère être quelqu'un de naïf parce que je pense qu'il faut des fois qu'il y ait des gens naïfs. Voilà. Après, moi, j'ai une tendance à penser que toute transformation et que tout apocalypse tend vers la grâce, en fait. Donc, tout ce que je fais quand j'ai écrit Colline, qui était un livre sur le transgenre et sur l'identité et sur l'incapacité qu'on a à à propulser nos corps dans le futur, en fait, et nous, je parle pas de transhumanisme du tout, hein, je parle juste de transgenre, ça doit être positif, ça doit être quelque chose qui doit, dans l'adversité, dans la terreur, dans le béton, devenir une lumière, devenir quelque chose. Toxoplasma, c'est complètement ça aussi, c'est un apocalypse, je sais jamais, à Montréal, qui est une commune de 3 mois, comme ça, une commune qui s'est créée parce qu'il y a eu des guerres en Europe, parce qu'il y a eu une guerre de l'eau avec Trump, parce qu'il y a eu tout un tas de trucs à la suite d'une insurrection, et c'est porté par un peuple, c'est porté par des gens qui savent qu'ils vont dans le mur parce qu'il y a des tanks partout, ils vont tous crever quoi. Mais en même temps, ils s'accrochent à des espèces de figures comme ça, de cultures qui tentent de transcender par la grâce justement, en se disant mais si ça qui a nourri nos vies, peut-être que si on l'implémente dans le réel et qu'on y va, peut-être qu'on va trouver une lumière et peut-être qu'on va continuer comme ça et qu'on va passer ce mur et qu'on va voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cet avènement là, c'est ce mouvement vers la lumière tout le temps, c'est systématiquement ce que je fais. Je l'ai fait peut-être des fois de manière un peu sombre parce que ben la réalité c'est que ben des fois on crève quoi. Et voilà.
Merci pour cette leçon d'optimisme. Daniel.
L'optimisme réaliste de la SF, c'est quand même quelque chose. De toute façon, on va crever, donc on va essayer d'être un peu optimiste en attendant. Non, mais voilà, puis on va essayer de s'interroger sur tous les mécanismes qui peuvent nous rendre rationnellement conscients de la manière dont collectivement on va tous mourir.
Comme dirait un grand auteur de science-fiction, Gandalf, l'essentiel c'est ce qu'on fait avec le temps qui nous reste.
Mais l'optimisme et la fin certaine ne sont pas incompatibles. On peut citer un film de Stanley Kramer qui s'appelle aide-moi On the Beach. Oui. Titre français. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas On the Beach, film de Stanley. Hein? Comment? Le dernier rivage. Merci. Le dernier rivage. Et donc c'est un film où tout le monde est condamné à cause de retombées radioactives où personne ne va s'en sortir. On est donc certain que c'est la fin du monde. C'est un film en noir et blanc d'une très grande élégance, un film magnifique que je vous conseille. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Ben, on va à la plage, on fait des soirées, on s'invite les uns les autres. Ceux qui n'ont pas le courage de sourire jusqu'au dernier moment peuvent prendre une petite pilule pour disparaître avant tranquillement. Mais la plupart des gens font comme si finalement cette fin n'allait pas avoir lieu, et ils en profitent, ils font des choses légères, ils font des choses humaines, et on peut très bien être optimiste même si on a la certitude de la fin en réalité, et ce film le montre bien. Donc les lendemains qui chantent peuvent chanter même s'ils ne sont pas longs. On peut avoir un lendemain heureux même s'il est suivi, il n'y a pas de surlendemain. Et donc il faut peut-être sortir de la dichotomie entre la joie que l'on peut ressentir qui serait incompatible avec la certitude de la fin. Et pourquoi elle serait incompatible? Et la science-fiction, avec son ironie, avec ce qu'elle peut faire, peut très bien nous donner ce genre d'exemple, par exemple. Voilà. De Stanley Kramer. Alors, je sais pas ce que tu citais tout à l'heure quand je...
Non, je pensais à autre chose. Je pensais à un truc très français, notamment sur le rapport à la fin du monde. Quelque chose qui est lié à la science-fiction. D'ailleurs, on m'a raconté l'anecdote. Moi, assez halluciné parce que ça expliquait mon origine. Il y a un homme en France, il y a eu un épisode comme la guerre des mondes en fait de Wells en France. Il y a Jean Nochet qui en 1946, en février 46 donc, fait un canular radiophonique en expliquant qu'une attaque nucléaire vient d'atteindre Paris. Avec un effet en fait sur les auditeurs bien plus important que celui de Wells avec sa guerre des mondes, puisqu'en fait le média était beaucoup plus suivi en France. Et il se trouve qu'il y a eu une étude démographique faite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien il y a un pic des naissances 9 mois plus tard. Je le sais parce que c'est novembre 46, c'est le mois de naissance de ma mère. C'est pour ça que je m'en souviens. Je suis issu d'un canular science-fictionnel, et donc on sait que quand les Français se disent « Ah mon sang, le monde est fini », qu'est-ce qu'ils vont faire? Des mômes. Et on ne s'est pas arrêté que là. On arrive à la fin du siècle, les dernières années, où à force de nous vendre le millénarisme, on est devenu millénariste. On allait tous mourir. Ah, le bug de l'an 2000, ah là là, surtout en France, avec centrale nucléaire, l'informatique, tout ça, on allait tous mourir. L'an 2000, tout ça, on va tous mourir. Et ben, y a un pic démographique en 99, 2000, 2001. Tous ceux qui travaillent en fac le savent bien, hein, on le prend en ce moment. On a réussi à battre l'Irlande, quand même, hein, pendant plusieurs... enfants par femme, hein, pays quand même où l'avortement est illégal. Donc, 2 fois de suite dans le XXe siècle, quand il y a la fin du monde, on sait qu'au moins les Français sont assez optimistes. Alors, soit... Il y a 2 manières de le lire. Hein. Soit on s'en fout.
Alex Zester voudrait réagir. Voilà.
Soit on s'en fout, on peut bien aller niquer. De toute façon, les mômes n'arriveront pas à l'âge adulte. Soit, bon, on va quand même tenter le coup. Si on en fait plein, il y a peut-être un ou deux qui vont y arriver.
Alex Jester ?
Bah, je me dis que la fin du monde, c'est peut-être utile dans le sens... Dans ce que tu décris là, je vois tout de suite le rapport qu'il y a psychanalytiquement, à la limite, entre Eros et Thanatos, qui sont liés l'un à l'autre profondément. Et donc, en fait, vivre, c'est risqué. Voilà, la vie pleine, c'est la vie dans le risque, c'est la vie avec la possibilité de surpasser l'épreuve, etc. Donc la fin du monde est une chance. En tout cas, l'apocalypse est une chance.
Mais là, pour revenir sur le... Je vais essayer de recentrer le débat.
Vas-y, vas-y. fais-toi plaisir.
Non, ça n'est pas un private joke. Hein. Non, ça, je vais recentrer. C'est l'idée, parce qu'on ne doit pas parler d'apocalypse, là, on doit parler des lendemains. Donc, si on revient sur le sujet du lendemain, voilà... voilà, on peut faire chanter les gens avec l'apocalypse et on peut faire évidemment que des couples se forment et que des enfants naissent. Bien, très bien. Mais en même temps, on peut trouver des tas d'exemples de vraies science-fiction dont les lendemains chantent. Regardez par exemple Kim Stanley Robinson, la trilogie martienne, où les êtres humains arrivent à la faveur de la découverte, ou en tout cas de l'installation sur un autre monde, à créer de nouvelles formes de société, à redécouvrir leur capacité à réinventer des valeurs, des manières d'interagir entre eux, etc., et qui réussissent. Donc, je sais pas qui a lu la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson dans cette salle. Est-ce que certains l'ont lu? Bon, c'est pas du tout ennuyeux. C'est pas un roman consternant.
Ça dépend des moments.
C'est pas quelque chose qui se lit péniblement avec en essayant de prendre de la vitamine C pour avancer. Donc, on peut très bien avoir un discours, on va dire à tendance utopique, pas utopique, en faisant une œuvre, une trilogie qui est quand même magistrale, je veux dire. Donc il y en a des tas d'exemples de science-fiction qui arrivent à des mondes meilleurs, pas forcément parfaits, hein. Il faut peut-être sortir de l'idée que l'utopie c'est forcément le monde parfait. On peut aller dans un élan d'amélioration et je pense qu'on est tout à fait capable d'en lire, d'en écrire et de prendre plaisir à le faire.
Oui, mais dans le cas de Kim Stanley Robinson, il y a quand même un grand envol qui a lieu et qui fait qu'on change de monde. Et donc, c'est plus facile, sans doute, de développer une utopie positive dans ce cadre-là. Hein, voilà.
Pour les utopies positives, bon, y a un exemple, j'ai participé à une convention à Lyon où on a parlé de cinéma, et c'est pas moi qui l'ai évoqué, mais beaucoup d'autres personnes ont évoqué Demolition Man, qui va pas paraître être le film le plus philosophique du monde, mais qui malgré tout pose des questions essentielles. Parce que le héros se retrouve projeté dans un monde futuriste qui est soi-disant une utopie souhaitable. C'est fabuleux, les gens ils baisent à distance en se regardant, ils mangent pas de viande, et ils sont zen. C'est les bobos de merde entre guillemets qu'on dénonce aujourd'hui. Évidemment, le héros c'est genre Stallone, je crois, qui déboule là-dedans et qui forcément trouve ça complètement grotesque. Et par la même occasion, le spectateur trouve ça complètement grotesque, en fait.
Non. Non, moi j'ai trouvé, c'est un très bon exemple, Demolition Man, moi, c'est un film que j'aime énormément. Non, je trouve pas ça grotesque, mais en fait, dans tout ce que vous dites, c'est rigolo, mais on oublie tout le temps le facteur humain. Alors c'est vrai qu'il y a le côté l'utopie, on peut aller, et si on a une nouvelle terre et tout, c'est plus drastique, mais en fait, mais globalement, mais on fout la merde, quoi. Enfin, en tant qu'humain, c'est même Demolition Man, il y a une espèce de réseau souterrain de gens qui abusent de tout. Oui. Enfin, il y aura toujours des abus. On peut pas empêcher une partie de l'humanité de mettre en esclavage l'autre moitié, quoi. C'est pas possible. C'est toujours comme ça, parce que je crois que, inhéremment, il y a un espèce de terreur de la mort et de terreur du monde fatal, comme ça, qui fait que, on a tendance à vouloir écraser les autres pour pouvoir arriver à survivre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une dynamique un peu simpliste ce que je dis, mais je peux pas m'empêcher de penser que l'humain est fondamentalement foutu, quoi, tu vois, par rapport à ça. Mais oui, non, mais c'est pas parce que. Alors voilà, donc c'est ce que j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est pas parce que les choses elles sont foutues, c'est pas parce que tout est noir et parce qu'on va crever, qu'on peut pas essayer, que c'est pas intéressant et qu'on peut pas essayer de déployer au quotidien et quand on travaille sur le zen et quand on travaille sur le corps aussi et dans le. Je veux pas parler de mindfulness ou de choses comme ça, mais quand on comprend la notion d'apex, que dans chaque moment de notre vie, dans chaque rencontre, dans chaque regard, on est au maximum de nos possibilités en tant qu'humain tout le temps, quoi. Et si on fait ça avec une granularité très très fine, c'est-à-dire quasiment toutes les secondes, on est capable de vivre une vie d'une intensité incroyable qui est sa propre valeur. Elle n'a pas besoin d'avoir un futur. Je pense que tout ça, c'est s'accrocher à ce qu'on avait, la tristesse de mourir. J'en sais rien. Moi, je suis absolument pas une personne sage. Je suis terrifié par la mort. Je, comme beaucoup d'entre nous, probablement, à moins qu'il y ait des espèces de, voilà. Moi, je pense que le but de ma vie, le but de la vie telle que moi je la définis, c'est d'essayer au quotidien de vivre cet apex-là, de le sentir et de comprendre que c'est cette vie-là qu'on a et qu'on peut pas compter sur autre chose. On peut pas compter sur les hommes pour s'organiser, pour soudain arriver à une espèce de valeur morale et éthique de société complètement. Ça a pris 3000 ans pour sortir d'une espèce de marasme et en même temps, on regarde dans quel état est la démocratie aujourd'hui, dans quel état on est à genoux, notre civilisation est à genoux et moi j'ai pas envie qu'elle tombe parce que j'aime la vie que j'ai, quoi. Donc je vais être obligé aussi de faire des choix et de rentrer parfois avec l'ennemi, du côté de l'ennemi, parce que cet ennemi, quelque part, il permet aussi une forme de stabilité pendant le temps où je suis encore vivante. Et donc du coup, ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'égoïsme, ça crée du truc de dire pour l'instant tout va bien, quoi. Et pas de mon vivant. Moi, j'en souvent
jusqu'ici,
pense que les
gens tout
dire
va
ça,
bien. Jusqu'ici tout va
des
bien.
Des gens dire ça, dire oh ouais, mais non, mais on verra pas ça de notre vivant, comme si ils se foutaient complètement de ce qui est arrivé, parce que l'important c'est ce qu'on vit, quoi. Mais ça, c'est hyper touchant sur l'humain. C'est ce qu'il faut comprendre, quoi. Tous les systèmes qu'on peut créer politiques, toutes les espèces de fantaisies qu'on peut faire, etc. Il faut revenir à l'humain, il faut revenir à l'intimité qu'on a vis-à-vis de ça, quoi. C'est pour moi, elle est là, la science-fiction, quoi. La vraie science-fiction, pour moi, elle est là. C'est la science de la vie.
Humain,
quoi.
Trop enfin, humain. C'est un de ces bouquins que Nietzsche a écrit dans lesquels il met cette phrase: l'homme est une chose qui se doit dépasser. C'est-à-dire que tant qu'on est ce que nous sommes, on est niqué. Mais peut-être qu'à un moment, on va développer quelque chose. Lui, il le voyait dans la science et l'art. Lorsque la science et l'art marcheront main dans la main, l'homme sera dépassé. Alors après, on a traduit le surhomme par le nazisme, c'est une autre affaire en fait. Lui, il n'était pas mêlé à tout ça. Lui, il disait l'homme est quelque chose qui doit être dépassé.
C'est bizarre, j'entends parler de Nietzsche tout le temps en ce moment à cette conférence. Tout le monde sait Nietzsche. Moi, j'ai jamais lu Nietzsche, quoi. J'ai dû lire un machin de fragments sur l'éternel retour de Nietzsche. Moi, j'ai jamais lu Nietzsche. Voilà. Et c'est hallucinant parce qu'il y a des gens qui me disent Nietzsche,
c'est parce que c'est un mec qui a un siècle nous a raconté aujourd'hui,
quoi, qui ont vachement de sens, et tu te dis oui, bah en fait non, c'était un vrai moraliste, c'était très intéressant, machin. Moi, je sais plus trop cette éthique de l'humain là, philosophique, je la comprends plus, quoi.
Alors bon, Nietzsche Nietzsche et les lendemains qui chantent. Alors est-ce que les lendemains chantés avec Nietzsche? Oui, lendemains chantés avec Nietzsche, c'est-à-dire que ainsi parlait Zarathoustra, c'est profondément optimiste, et en même temps, c'est un optimisme exigeant. Voilà, c'est un optimisme exigeant. C'est quand même quelqu'un qui chante le gai savoir. Enfin voilà, mais Nietzsche, en auteur de science-fiction, on va le mettre un peu de côté, je pense. Je suggère.
Non, mais j'aime bien quand il nourrit la science-fiction. Michael Moorcock, qui n'était pas là à la dernière table ronde, moi j'ai lu le cycle d'Ockmoon. Les vaillants chevaliers camargués qui se battent contre les grands bretons décadents, c'est le gai savoir de Nietzsche, qui l'a écrit en Camargue. Donc Nietzsche a nourri des grands auteurs de science-fiction, comme le cycle d'Ockmoon ou Elric, qui est aussi profondément nourri de Nietzsche. J'aime bien quand la SF peut aussi se nourrir de philosophie.
Aucun problème. Alors là, moi, je suis parfaitement d'accord. Ceci étant, on peut continuer sur la question de quelle inspiration pour les auteurs de science-fiction à partir de Nietzsche ou du meilleur général de la philosophie. Je suis parfaitement d'accord.
Optimiste.
Hein. Voilà. Revenons un petit peu à la question de l'optimisme du meilleur général. Et justement, en fait, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que j'ai entendu jusqu'ici dans les différentes tables rondes et qu'on retrouve ici de façon assez flagrante, alors même que nous donnons pour objectif de parler de ces lendemains qui chantent, qui est qu'il y a, me semble-t-il, une ambiguïté de savoir de quoi on parle exactement. C'est-à-dire, là, dans quelle mesure est-il encore possible de créer une science-fiction qui... Parce que Stanley Robinson et Green Mars, c'était il y a 25 ans. Hein. Donc, c'est le problème aussi. Y a-t-il encore la possibilité d'une science-fiction optimiste? Personnellement, et enfin, je ne veux pas m'impliquer en tant qu'intervenant dans le débat, mais je signale tout de même qu'il y a une science-fiction profondément optimiste qui se développe et qui est lue de façon assez abondante et qui vient sur nos écrans. C'est notamment tout ce qui a trait au space opéra. Le space opéra n'est pas mort, il est encore bien actif et il a des très bons auteurs et qui présente des situations, des dépassements. La possibilité d'un dépassement. Et alors, mais ceci étant, ça renvoie à la question, et je vous invite à prendre position ou pas, mais enfin, je vous invite à le faire en tout cas. C'est-à-dire finalement, est-ce que justement ce courant de science-fiction qui a sa valeur propre, est-ce que ce courant de science-fiction est automatiquement naïf? C'est-à-dire, est-ce qu'il procède d'une naïveté? Mais la naïveté a du bon. Je suis pas en train de, je veux pas forcément faire un jugement de valeur. Mais est-ce que c'est justement, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans ces visions que peuvent nous donner par exemple Banks, on en parlait pour la culture, ce qu'on a dans un environnement comme The Expanse qui nous représente une humanité qui atteint les étoiles, alors même que bon. ils foutent la merde dedans, hein, je suis bien d'accord. Mais justement, mais ça, est-ce que ce rêve-là de l'espace, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du wishful thinking, de l'évasion, de l'escapisme, ou est-ce que ça a sa place dans le discours, la réflexion contemporaine?
Dire un truc juste parce que comme ça moi je tranche sur le sujet là-dessus pour moi quoi. Moi je pense qu'on n'a pas le droit d'aller dans l'espace. Je pense qu'on n'a pas mérité d'aller dans l'espace avec ce qu'on a fait sur Terre.
C'est beau.
Sérieusement, non mais qui on est pour prétendre aller coloniser l'espace pour dire l'espèce humaine, on va la répondre avec notre sperme partout là. Non mais les mecs, délire quoi.
C'est impossible
délire total.
En fait.
De quel droit on va pourrir la galaxie quoi.
C'est impossible d'y croire. Il suffit d'avoir vu Fight Club et d'avoir entendu la phrase où il dit quand on colonisera l'espace, il y aura la galaxie Microsoft et il y aura la planète Starbucks.
Whatever, mais ouais, mais c'est clair, mais non, mais jamais.
C'est
jamais.
Une question de confiance en nous-mêmes. Hein.
T'es capable déjà d'avoir un monde sans bagnole qui tue des gens, et on verra si tu peux faire des navettes pour aller sur Mars, quoi. Enfin, je sais pas, délire, quoi.
Mais il y a moins de circulation entre les planètes, les gens picolent moins, quoi. Dès qu'on passe la barrière d'astéroïdes, les gens tiennent la droite. C'est facile, quand t'as deux parsecs avant le dernier, c'est plus simple.
En même temps, il y a quand même une légère marge avant d'aller pourrir la galaxie, hein. On va peut-être pourrir juste, voilà.
Alors.
Mais le space opéra. Ouais, vas-y.
Moi personnellement, quand j'ai vu l'intitulé de la table ronde, je me suis pas posé la question les lendemains qui chantent où que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Je me suis posé la question les lendemains qui chantent pour qui. Parce que. Et ça va loin quand on commence à se poser ce genre de questions. Parce que, lorsque nous nous préoccupons de l'environnement, est-ce que c'est pour l'amour de la planète? Est-ce que, véritablement, non, c'est pas sérieux, quoi. Elle a déjà connu, je ne sais pas combien, 5 ou 6 extinctions de vie. Elle en connaîtra d'autres. Et elle continuera à aller son chemin jusqu'à ce que le soleil transformé en géante rouge grille tout ça et absorbe notre monde. Hein? Bon, alors, à partir de là.
Le bilan est fait.
Bon, ce qui nous importe, à nous, soyons francs, c'est que notre civilisation, essentiellement occidentale, puisque la science-fiction est essentiellement occidentale, soit préservée, se perpétue. Que notre way of life continue avec notre confort, notre culture, notre... Hein, voilà la question que je pose. Moi, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, bon, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Alors, ça va peut-être pas très loin, mais enfin, bon, il me semble que c'est une question liminaire qui peut être intéressante. Voilà. Bon, je douche. Là,
en fait, j'avais pas entendu la même chose, en fait. Les lendemains qui chantent pour qui? En fait, dans une société, il y a bien souvent des dominants et des dominés, et les lendemains, ils chantent pour les dominants, et pour les dominés, c'est vraiment la merde. Hein.
Ça aussi.
Donc il y a ça aussi. Enfin, moi, ça fait depuis que je lis la littérature cyberpunk, depuis les années 80, où on nous parle d'un écrémage de la société, de la fin des classes moyennes, et des hyper-riches contre les hyper-pauvres. Bon, ben voilà, ça fait 20 ans que quand j'allume France Info, je me dis, ah ben tiens, ça se passe.
Ouais, c'est bien beau la nanotechnologie, encore faut-il avoir la sécu, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des trucs, des lendemains qu'on conçoive, que tout va bien, qu'on va... Moi, je lis des news, des fois, oh, on a trouvé un truc pour guérir le cancer, machin, mais qui va pouvoir se payer ça, quoi? S'ils vont pas donner ça à Jobo dans son trailer, ils s'en foutent, quoi, tu vois, c'est difficile. Donc oui, moi je pense que t'as posé une question fondamentale, là. On n'est pas dans un espèce d'idéal, là, de l'optimisme ou du pessimisme, on est dans malheureusement dans le réalisme le pragmatique le plus horrible, quoi, qui est de dire, mais attendez, mais on peut pas envisager ni une utopie ni une dystopie sans envisager de massacrer les 3/4 de la population, quoi. Et ça, globalement, c'est quand même quelque chose contre lequel il faut faire quelque chose là-dessus, parce qu'on ne va pas laisser mourir des gens comme ça, juste par idéologie, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens.
Utopia, si on est dans le thème de l'utopia, la série Utopia, que j'ai trouvé relativement géniale, même si bon, elle tourne un peu en rond au niveau scénaristique, mais le présupposé, c'est que l'espèce humaine va à sa perte, parce que simplement la population, sa consommation, ses modes de consommation, ses modes culturels, c'est insoutenable sur cette planète, et qu'on va forcément dans le mur, et donc ce sont des gens haut dans les sphères du gouvernement qui font ce constat et décident de balancer un virus qui stérilise la population. Que la population ne puisse plus se reproduire, c'est le seul moyen de sauver l'ensemble de l'espèce en écrémant 99%. Après, le jeu qui est rigolo, c'est de savoir mais qui est le 1% qu'on va sauver? Qui ça sera?
Donc le lendemain, je suis en tronc très aigu, donc.
Il y a une réaction. Bon, ok, bon, on va tous mourir, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, mais c'est en fait. Sans aller jusque là, il y a. Je pense qu'il y a quand même une chose avec le entre le réalisme et le pessimisme de la SF. On peut avoir ces constats-là sans problème. On peut effectivement estimer que bah oui, on est dans un système surtout en Europe. Hein, je veux dire, en Europe, on était entre deux utopies qui se sont radicalisées par opposition l'une contre l'autre. Nous, on était pile au milieu. Et puis, en 89, il y a un mur qui s'effondre. Une utopie, c'est beau tant que ça n'existe pas, tant que c'est sur une île. Dès que ça se répand sur l'ensemble de la population. On sort du discours, on sort du confinement, ça devient une dystopie cauchemardesque. C'est ça qui fait que l'utopie est un modèle idéal. C'est un modèle qui ne nous touche pas, qui sert d'exemple. C'est vraiment ça. Le premier truc de ça, c'est que une dystopie, à la base, c'est une utopie vécue de l'intérieur par, notamment, les esclaves de Thomas More qui font fonctionner l'économie.
Le mot utopie veut dire ça, le lieu qui n'existe pas.
Oui, non mais... Et c'est donc effectivement, on peut rester dans cette idée de rester collé finalement sur des tendances contemporaines. Je pense qu'il y a quand même pas mal de formes de SF qui s'autorisent quand même un saut dans le temps, dans le passé ou dans l'avenir, où on peut effectivement quand même imaginer qu'on va les dépasser. Il y a des exemples extrêmement naïfs au XXe siècle, mais extrêmement puissants. On peut prendre le monde de Star Trek. Quand Roddenberry projette son monde, il le projette dans une société qui sort à peine et qui est encore ségrégationniste dans les faits, même si elle ne l'est plus dans la loi. Et il va postuler cette espèce de société dans laquelle, justement, il y a des efforts communs. Et en plus, cette utopie va accompagner, au fur et à mesure des séries et des films, les choses. Je prends un exemple qui m'a toujours plu comme ça, c'est dans First Contact, où à un moment, justement, ils arrivent au début du XXIe siècle et présenté comme, justement, un siècle de catastrophe écologique, de pauvreté généralisée, de dispersion. Et en fait, ils l'emmènent dans le vaisseau. Elle regarde dans le vaisseau et elle fait « Mais combien ça a coûté ?» Et Picard la regarde en disant « L'économie n'est plus organisée tout à fait de la même manière. » Et donc on a quand même des grandes lignes de science-fiction qui travaillent à quelque chose de positif, à un ailleurs, et qui essayent de prendre le contre-pied justement, si on prend tout ce qu'on dit. Alors le fait de l'ingérence, tout le rapport du 19e siècle, de hiérarchie entre un peuple avancé et un peuple primitif, etc., il essaye de prendre tout le contre-pied de ça et fait des récits qui finalement ne sont pas tellement naïfs. Mais ils tiennent quand même debout. Au cinéma, on a eu ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, un film, pour qu'il soit sérieux, il faut qu'il soit psychologique, sombre, que l'image soit bleue et qu'il y ait écrit Philippe K. Dick quelque part. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est comme ça. Ce modèle essaime énormément. Et... Ah, j'avais pas voulu celle-là, elle est bien. C'est un modèle donc qui reste quand même énormément d'un film doit être noir, il doit mal se finir. Encore au début des années 80, jusque même à fin des années 80, le fait qu'un héros meure à la fin d'un film, c'était un anathème à Hollywood. Il était hors de question de trahir le feel-good effect parce que la personne qui vient est un client. En Europe, on comprend pas les films américains parce que nous, on se tait quand on regarde les films. Donc on comprend pas. Aux États-Unis, quand on regarde un film à gros budget, on mange du pop-corn, on boit du coca, on balance des vannes, on rigole, on commente ce qui se passe. Ils ont aussi des cinémas où les gens se taisent et ne mangent pas de pop-corn. Hein, ils ont. Mais il y a un mode de consommation des films qui est pas du tout le même. Et le fait de faire un film, justement, de le rendre négatif ou de tuer le héros, c'est quelque chose qui se faisait pas du tout. Et par réaction, à partir en fait des années 90, et on a un effet de bascule quand il ressort justement Blade Runner au début des années 90 sans la happy end de départ, on a un effet de bascule qui se passe, qui maintenant a été totalement est rentré complètement dans les mœurs avec Game of Thrones, où plus ça saigne, plus le héros il est sympa, plus il meurt, plus c'est sérieux. Et on en est arrivé à ce que j'appelle de la même manière que le réalisme littéraire. Le réalisme littéraire, quand il se développe, quand il culmine au 19e siècle, cette idée que quand c'est noir, quand ça sent la mort, quand ça sent la boue, c'est forcément plus réel. Le réalisme, le pessimisme sont aussi des codes esthétiques. Et ne sont pas forcément des visions d'objectifs. On n'est pas plus objectif parce que le monde est entièrement noir. On peut très bien estimer que oui, on va mourir, mais on peut aussi trouver des choses extrêmement positives dans cet espace-là. Et on remarque au cinéma récemment, on a quelques signes en fait, de films qui sont construits en réaction à ça, en réaction à notre enfermement sur notre propre catastrophe. On a Interstellar qui est construit dessus, avec justement ce personnage principal qui...
qui est là, c'est juste le discours du personnage principal, hein, je vais pas rentrer dans les détails de tout le film, mais qui au début est justement une espèce de société complètement obscurantiste, qui se replie sur ses idées de la conspiration du complot. On n'est pas allé sur la Lune, on n'a pas besoin de technologie spatiale, on a juste besoin de nourrir la population même si on sait que c'est mort. On a même le mensonge, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure avec le mensonge en fait du scientifique qui sait qu'il ne va pas sauver sa génération, il sait qu'il va pas sauver sa civilisation, il essaye juste de sauver son espèce dans un ailleurs, dans un autre temps. Et cette réaction du héros qui est là au milieu en train de dire mais bon sang, enfin on est fait pour aller dans les étoiles. Et là je me reconnais moi de manière générationnelle, il est où mon an 2000 de quand j'étais petit? J'ai devant moi des populations d'étudiants qui ont dans la poche l'équivalent d'un supercalculateur de Météo France quand j'étais gamin, qui peuvent se connecter tous là. On peut se connecter à des images en live de Mars, si on veut, de Mars. Et on s'en cogne. Et on dépense 7 milliards pour acheter une boîte qui met des filtres sépia sur les photos du kebab de midi, quoi. Donc il y a quand même... Bon sang. Et il y a eu certaines SF qui se répondent à... Il y a Tomorrowland, qui est un film que j'adore récemment, parce que justement, l'héroïne, elle est comme ça, elle passe de cours en cours. Et là, l'environnement, là, non mais non, là, c'est foutu pour nous. Et là, l'espèce, non, là, c'est foutu pour nous. Et là, la guerre, ah ben non, mais là, c'est foutu pour eux. Et elle est tout le temps là en train de lever la main, elle emmerde tout le monde, elle a une question à poser, c'est... Et qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais. Alors là, moi, je valide à 2000% ça. Moi, c'est un film que j'adore. J'ai dû le voir 10 fois, quoi. Et c'est un film qui est pas aimé parce que c'est Lindelof qui a fait le scénario et tout le monde le déteste à cause de ce qu'il a fait avant. Mais en même temps, c'est le seul film qui parle de ça ouvertement avec une gamine qui dit mais oui. C'est super ce que vous faites là. Il y a tout qui part en sucette. Et nous, qu'est-ce qu'on vous nous apprenez pour faire des choses en fait? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et qui décide, ne serait-ce que parce qu'elle y croit, qu'elle modifie. Enfin, je vous invite vraiment à voir ce film. C'est un très beau film pour enfants. Enfin, pour enfants. Non, c'est un film pour tout le monde. Mais c'est vraiment moi ce que j'aimerais que les enfants regardent. Alors après, bon, il y a deux trois discours sur le film, comme quoi Brad Bird, qui a fait le film, est un peu quand même un peu un libertarien, donc il y a deux trois idées libertariennes qu'on peut analyser ou pas, faut voir. Mais globalement, enfin je veux dire, ça c'est vraiment un film, c'est très rare de voir des films comme ça, c'est extrêmement rare. C'est d'ailleurs, c'était un carnage au box office parce que les gens ont pas compris, parce qu'il y a le conflit il est pas tangible. On est là, on commence à ces histoires de pessimisme, d'optimisme, c'est quoi, ils ont pas compris. En plus, c'est un film qui explose le Bechdel test, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment un film de nana en plus, quoi, qui est super beau et qui est vraiment intelligent et drôle. Et ouais, faut voir ce film, hein, sérieux. Après, vous allez peut-être le détester, mais bon, voilà.
C'est votre droit. Hein.
Alors, j'aimerais ouvrir la parole au public dans le temps qui nous reste. Ça va, on a le temps pour discuter. Oui, merci. Donc il y a des questions un peu partout. On va quand même avoir le temps pour quelques questions, sauf si vous êtes tous très bavards. Mais
oui, bonjour. Bonjour. Du coup, moi, vous étiez reparti du coup sur le côté optimisme, et ça m'intéressait vachement parce que on me dit, enfin les altermondialistes nous disent qu'un autre monde est possible. Et justement, je me demandais si le fait de mettre en scène des utopies dans lesquelles justement un autre monde était possible, c'est pas une façon de prouver cela, de prouver qu'on peut quand même changer les choses d'une certaine façon. Voilà.
Bah absolument, c'est le même effet que l'effet de la dystopie, c'est-à-dire que plus on publie des dystopies, plus on est convaincu que tout va aller à volo, plus on publie des utopies, plus on se dit qu'on peut recommencer à le penser. C'est vrai, le fait de donner aux gens la possibilité de penser l'altérité, de penser l'alternative, évidemment, et c'est une des missions de la science-fiction aussi, entre guillemets, un des champs d'expression, ouais. Bien sûr.
Oui, moi, à partir de là, la question que je pose, étant donné la situation de notre monde actuel telle qu'elle est, hein, c'est est-il possible que les lendemains recommencent à chanter ? On ne dit jamais chanter, bon, ça c'est la question. Mais en tout cas, ou qu'ils recommencent à chanter sans un gros électrochoc, une grosse catastrophe générale, une grande déglingue, si on veut, hein, qui remettent les compteurs à zéro, obligent à faire table rase dans la mesure du possible.
Apocalypse.
Voilà. Alors à partir de là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité où l'humanité est incapable de se relever et s'enfonce.
Et tant mieux.
Oui, tant mieux. Bon, si on prend le point de vue de Sirius, effectivement, c'est tant mieux. Ça, c'est le scénario qu'on a, par exemple, dans La route de Cormac McCarthy, que je vous conseille de lire. Là, c'est à la suite d'une catastrophe dont on ne sait pas d'ailleurs du tout ce qu'elle est. Il y a des gens qui disent que c'est une catastrophe thermonucléaire, non. Cormac McCarthy ne le précise pas. mais l'humanité erre sur les débris de la civilisation disparue et erre sans aucun espoir. Le monde est devenu gris, froid, et on se nourrit individuellement, on n'arrive pas à se réorganiser, on se nourrit individuellement sur des conserves trouvées dans des endroits qu'on cherche désespérément. Enfin, bon, c'est épouvantable. Alors, bon, il y a aussi le cas de La planète des singes, le film. Je parle du film parce que le roman, il m'est tombé des mains au bout de 3 pages.
Il ne raconte pas la même
film,
histoire.
Le film, le premier, hein. Le premier, celui de Schaffer des années 70, je crois, ou fin des années 60.
68, je crois.
Fin des années 60, voilà, avec Charlton Heston. Dans ce film-là, les hommes, à la suite d'une catastrophe nucléaire, ça on l'apprend à la fin du film, si vous l'avez vu, oui, ont dégénéré au stade animal. Ils ont été soumis par les singes qui ont évolué de façon pas très vraisemblable à dire vrai en l'espace de 2500 ans et qui les chassent parce que ces hommes pillent leur récolte. Voilà, bon, donc là, c'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. L'humanité s'est enfoncée.
C'est positif.
Oui. Oui, ça peut être considéré comme positif.
Le truc, c'est qu'on est quand même déjà à genoux. Enfin, je veux dire, ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, ce qui se passe dans beaucoup de parties du monde, on a déjà cette société qui est en train ce monde qui est en train de s'écrouler. On y est déjà, en fait, à la catastrophe, quoi. On veut juste pas le voir, quoi. Et tu parlais de Star Trek, du monde merveilleux de Star Trek et tout, mais au moment de Star Trek, John Roddenberry, il a pu faire sa civilisation après une guerre massive qui a exterminé les 3/4 du monde, quoi.
C'est vraiment la série des 30 Glorieuses, hein. Cet optimisme-là de la génération la plus cool de l'histoire de l'humanité, celle qui a eu, grâce au pétrole, accès au plus grand luxe qui ait jamais existé sur cette planète.
Ouais, bon, ça c'est un peu blâmer une partie de la
population. Mais c'est pas leur faute, hein, c'est pas leur faute, mais ils ont connu la plus cool période de l'histoire humaine, de l'humanité, de l'espèce.
Voilà, et donc moi je continue mon histoire. Bon, donc la première solution c'est... soit l'humanité s'enfonce et périclite complètement, est incapable de se relever, soit au contraire elle a encore assez de ressources et assez de volonté pour assez de force aussi pour reconstruire une civilisation nouvelle sur des bases saines et pérennes. Et c'est ce que nous imaginons justement dans notre sous le soleil de cendres, une civilisation, bon, qui va pas être parfaite parce que ce qui se passe, c'est que c'est quand même au prix, le relèvement est au prix d'une société de contrôle, de privation relative de liberté, de surveillance. Ça va pas sans de notre point de vue libertaire à nous, alors c'est quand même mieux que ce que par exemple Ira Levin décrit dans Un bonheur insoutenable, hein. Mais il y a quand même, c'est une société qui évacue par exemple celle que nous décrivons dans Sous le soleil de cendres, qui évacue ses dissidents, parce qu'il y en a toujours et il y en aura toujours, vers des sortes de bagnes où ils sont contrôlés par le gouvernement central qui s'appelle l'instance dans notre roman. Et où ils sont, mais alors par contre, ils sont laissés à eux-mêmes, à leur organisation. Et c'est la loi de la jungle qui prévaut dans c'est la face cachée de l'instance en quelque sorte. D'un côté, il y a une société policée, et de l'autre, un bagne où tous les coups sont permis. Voilà.
Alors, on avait d'autres questions donc ici. Oui.
Oui. Bonsoir. Alors, une question simple, est-ce que la science-fiction n'est qu'un divertissement? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se servir de la science-fiction pour, avec tout ce que vous avez dit, nous aider, nous, en tant que citoyens, à prendre conscience des actes que l'on pose, pour essayer... Alors, soit on est dans un... Tout ce que vous dites un petit peu, c'est qu'on est un petit peu dans un train où il n'y a plus de contrôle, c'est-à-dire qu'apparemment, tout est joué. Est-ce que la science-fiction ne peut pas nous aider, chacun à notre place, à essayer de construire autre chose?
Ça serait sympa,
en nous montrant
qui sommes dans cette pièce, qui prend la science-fiction au sérieux?
Eh ben, la science-fiction est en train de sortir.
Dans la presse généraliste, il y a les états généraux de l'imaginaire en ce moment. Ils traquent dans le moindre journal le nombre de fois où on parle d'œuvres de l'imaginaire.
Mais c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est long. Oui. Mais
est-ce qu'on a le temps?
Bah, on aura toujours. Soit on arrête effectivement, on n'a plus le temps. Bah, autant tout arrêter, soit essayer de se mettre en marche et... excusez-moi, juste, juste pour une petite histoire, dans les années 50-60, il y a des gens qui sont mis à manger bio. Et tout le monde, et j'en parle parce que c'était dans ma, entre autres dans ma famille, tout le monde disait, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, de toute façon, l'agriculture intensive est là, elle a apporté la profusion à tous, etc. Maintenant, ben, non pas qu'il faille nourrir tout au bio, mais ce que je veux dire, c'est que des individus infimes ont fini par influencer sur une globalité. Donc c'est... Et en ce sens, je trouve que la science-fiction, même peu importe qu'elle soit utopique ou dystopique...
Les gens viennent au bio à cause de Soleil Vert. Au niveau culturel. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien l'idée qu'une œuvre artistique joue sur l'inconscient. C'est là que ça joue. C'est-à-dire que c'est un imaginaire fort, il travaille ton inconscient et il travaille avec des inconscients collectifs et il a de vrais effets. Non, mais la première science de toutes les sciences, c'est la science des histoires, de celles qu'on se raconte à soi-même et qu'on se raconte collectivement. La science technique elle-même n'est qu'une sous-branche des histoires parce qu'on a choisi de se raconter la science. Mmh. C'est encore un choix d'histoire. Les histoires qu'on se raconte, c'est la science qui les domine toutes.
Donc le fond de ma question, est-ce que la science-fiction n'est qu'un divertissement ou qu'on peut se servir de la science-fiction pour essayer de construire autre chose?
Ah, qu'est-ce qu'on aimerait voir au programme de plein de manières. Il y a des auteurs qui se sont pris direct. C'était le projet de Gernsback dès le départ. C'est évidemment comme tout manifeste littéraire, il n'y a que celui qui écrit le manifeste qui respecte son manifeste littéraire. Hein, ça, c'est une constante dans l'histoire de la littérature. Mais et en général, c'est pas lui qu'on lit parce que bon. Mais c'était le projet initial et c'est resté dans une certaine branche de la SF, le projet pendant très très longtemps, cette idée de former une génération d'ingénieurs, de donner un goût pour la science, de donner... Mais vraiment cette notion d'éducation, on est aujourd'hui dans un état du monde où effectivement le point de vue global de la science-fiction, sa capacité à rendre intelligible par des histoires la complexité du monde et l'échelle des problèmes, a toute sa place, Après... Oui, et on peut aller très très loin là-dedans. Heinlein a écrit des juvéniles incroyables pour enseigner vraiment la manière de réfléchir, de calculer, d'interpréter le réel autour de lui. Donc il y a des textes absolument phénoménaux. Après, là où on se heurte un peu à la chose, c'est ce que tu disais, c'est en fait c'est la réalité de l'impact et de l'image de la science-fiction dans nos instances. On peut pas dire que les choses ne bougent pas, mais
le mainstream peut y arriver. Parce que le mainstream, c'est des gamins de 13 ans qui vont se retrouver dans une salle de cinéma et voir un film. Je bosse dans les médias, le cinéma, je traduis des films, etc. Il y a de la propagande, il y a de l'idéologie dans tous les films. Donc Matrix, on sort de Matrix en se disant j'ai vu un chouette divertissement, sauf que j'avais 12 ans et dedans il y a une phrase de Suran, l'homme est le cancer de la Terre. Je sors donc d'une salle de cinéma en ayant consommé cette idée qui est limpide dans le film. Elle est limpide.
Qui est dit l'homme
est dans le méchant. Équilibre. Et donc on trimballe ça.
C'est une phrase du méchant.
De qui?
C'est une phrase du méchant.
Non, parce que quand il l'a dit,
c'est une phrase du méchant. Il regarde son héros et il explique à Keanu Reeves qu'il pue.
Oui.
Keanu Reeves pue et c'est le cancer de la planète. Non, mais il faut quand même remettre le film axiologique. D'accord, qu'il y a une idée inconsciente qui est derrière, je veux bien, mais enfin, c'est quand même le méchant.
C'est un produit de consommation vu par beaucoup de monde. Le mainstream a l'impact. Soleil Vert, c'est un grand film de mainstream. Il a été vu par beaucoup de monde et qu'il ait eu un impact sur le rapport à l'alimentation et le rapport. Il y a plein de gens. Moi, je suis dans une AMAP et je travaille avec le monde paysan. Soleil Vert fait partie de la culture de tous ces gens. Donc je dis respect à la personne, qui, même si Charlton Heston, politiquement, je ne sais pas où il est. Quoi.
Oui, mais.
Il est mort. Il est mort.
Je crois qu'il a poussé pour le produire, etc.
Non, mais pour vraiment, moi, monsieur, j'ai jamais pensé que la science-fiction n'était qu'un divertissement. Hein. Je veux dire, la science-fiction que je lisais quand j'étais petit et que j'essaye d'écrire aujourd'hui, ça a toujours été une science-fiction qui cherche à interroger les représentations qu'on a du monde, à montrer que la version qu'on a, la représentation qu'on a du monde, elle est subjective, elle est limitée et qu'elle peut être mise en cause. Donc, si on est dans un train lancé à toute vitesse, eh bien, cherchons des solutions soit pour ralentir le train, soit pour sauter du train et inventer d'autres formes de société. Donc entre la naïveté et tout à l'heure j'ai pas eu le temps de te répondre parce que vous êtes tellement fascinant que je vous écoute et je trouve que votre façon de poser les problèmes n'est pas du tout la mienne et je suis complètement fasciné par vos interventions. Mais pour moi l'optimisme c'est l'autre volet de la lucidité. Hein. Je vois pas pourquoi l'optimisme serait une sorte de naïveté. Je m'inscris totalement en faux. Pour moi les gens optimistes c'est les gens lucides, c'est-à-dire ils se retroussent les manches, ils disent on va pouvoir changer les choses et on va le faire lucidement avec les moyens qu'on a. Et c'est un courage. L'optimisme, c'est une forme de courage. Et les gens qui ont du courage, sont des gens qui sont aussi capable d'interroger les choses, de trouver un chemin et pas être naïf. Voilà. Donc il y a pas du tout, moi je vois pas du tout de lien entre optimisme et naïveté, et ce que tu as dit tout à l'heure Daniel était absolument clair. Il y a pas non plus de réalisme et de pessimisme, il y a des pessimistes qui sont absolument pas réalistes, qui sont du pessimisme totalement gratuit et qui finalement est une forme de naïveté masquée, hein. C'est-à-dire en gros, on peut pas s'en sortir, donc autant crever, quoi.
Ouais. Alors, moi je suis assez d'accord avec ça. Et effectivement, le terme de naïveté est très intéressant, mais je pense que quand même, dans cette lucidité, moi j'aime beaucoup l'idée de lucidité là, je trouve que c'est très fort ça, c'est quelque chose qui doit vraiment émerger, mais dans cette lucidité, il doit quand même aussi y avoir la lucidité non seulement des matières périssables du monde fatal, je le répète, mais aussi le fait que si tu as une lucidité et que tu essaies de changer les choses, tu vas toujours essayer de les changer pour le bien, d'une certaine manière. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue judéo-chrétien, c'est comme
personne
ça.
Personne ne veut le mal volontairement.
Voilà, mais je veux dire, si on fait les choses toujours bien, il y a des gens qui, eux, ne les font pas aussi bien, quoi, et qui ne le font pas forcément pour faire le mal, mais plutôt pour leur bien à eux. Et je pense que ne pas être lucide sur cette fragilité de l'homme, de l'humain, et ne pas être lucide sur le fait que on a beau vouloir accomplir des choses magnifiques pour pouvoir dépasser l'homme, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, in fine, on reste humain face à des humains, quoi. Et ça, mais ne pas voir ça, là, ça devient de la naïveté réellement. Et je dis pas que c'est bisounours ou quoi que ce soit, je dis juste quand même, il faut prendre en compte ça, il faut prendre en compte je me souviens, j'ai vu un cartoon il y a pas longtemps avec Marx en train de mourir dans son pieu, là, et il fait, oh putain, j'ai oublié les humains. Tu vois, il avait oublié le facteur humain dans son histoire, en fait, quoi. Il s'est dit, j'avais pas envisagé qu'on puisse twister le truc autant, parce que c'est vrai que bah, y a le bien. Le
communisme, c'est génial tant que c'est pas fait par des gens.
Ben voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que est-ce que l'utopie ou la dystopie, quand c'est pas fait par des gens, c'est bien. Donc c'est pour ça que les gens se posent des questions sur les. On a plein de gens qui disent, I am ready to welcome my AI overlords, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, ils adorent l'idée qu'un jour on va être dominé par des entités d'IA, les IA qui vont pouvoir avoir une espèce de code éthique comme ça et qui vont pouvoir prendre des décisions à nos places et qui vont pouvoir faire dépasser cette espèce de loi de l'homme pour l'homme. Parce qu'on avait créé Dieu pour ça aussi, hein. C'est-à-dire on avait dit, ah non, mais attends, c'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. Ah ouais, bah c'est sûr, bah là forcément, voilà. Donc là, on est en train de soumettre la loi des hommes par la loi des hommes. Et alors justement, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de se recréer une espèce de méta comme ça avec les IA qui vont pouvoir cadrer les humains pour que les humains entre eux arrêtent de se massacrer et œuvrent les uns avec les autres, la collaboration, tout ça. Mais la lucidité, c'est aussi voir cette fragilité-là, quoi, et qui sera là tant qu'on sera pas tous partis, quoi. Tu vois?
C'est Serge Lehmann, dans une de ses nouvelles qui s'appelait Le Temps des Olympiens, disait que la lucidité était une valeur surévaluée. En soi, le fait d'être lucide ne suffisait pas. C'est-à-dire que savoir les choses ou comprendre, essayer de poser les problèmes, ça suffit pas, mais c'est peut-être déjà un point de départ. Donc si la science-fiction peut aider...
Il y a un gros défaut dans la lucidité, ça mène à la dépression ou au suicide. Être intelligent, c'est plutôt une emmerde, en fait. Ignorance is bliss, c'est ce que dit machin dans Matrix.
Oui.
Et non, c'est très bien d'être intelligent et d'être lucide, c'est super cool, ça permet de. Ça
pas
permet
tous quand les
même
jours,
d'avoir. Mais non, mais pas cool, mais même qu'être pessimiste tous les jours, tu finis par tirer une balle, quoi. Enfin, je veux dire, pareil, quoi. Entre les deux, choisis. Enfin, moi,
Oui, non, mais on n'a pas le temps, malheureusement.
Moi, ce que je voulais dire, c'est.
Il n'y a plus de table ronde après.
Si, enfin, il y a des. Y a, si, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a le prix Verlanger juste après, non?
Ah oui, oui.
Voilà. Donc, on va devoir arrêter. Pardon? Oui. Est-ce que. Très brièvement.
Ça me rappelle une bonne part de l'univers de Houellebecq.
Particules élémentaires.
La fin des particules élémentaires et surtout la possibilité du Nil, où il imagine des êtres, des transhumains, en fait. Hein, puisque, après tout, l'une des questions, c'était le transhumanisme.
Ah oui, qui remercie les humains d'avoir pavé le chemin.
Oui.
Vous n'étiez pas si mal, vous, les humains. Vous étiez foireux, vous étiez suicidaires, vous étiez dangereux, mais vous nous avez créés, donc vous avez servi à quelque chose de bien, quand même.
Oui, oui, mais ces transhumains sont à la fois... hétérotrophes et autotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de l'air, du soleil, de la terre, et puis finalement ils cessent de dégrader la planète, ils cessent de devenir d'être prédateurs, et c'est peut-être ça.
C'est le meilleur des mondes souhaitable. En fait, le meilleur des mondes d'Huxley, c'est des lendemains qui chantent.
J'espère tout de même que les lendemains qui chantent seront pas ceux de Houellebecq.
Ils vont bien et peut-être.
Pourquoi si,
bah je n'ai Pourquoi plus le temps d'y répondre, mais nous en parlerons. Mais là, il faut que je close la table ronde. Merci à vous et merci à nos intervenants.